Salut à tous, merci d'être au rendez-vous. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce Je sais tes podcasts, un numéro qui, cette semaine, ne sera pas centré sur l'actualité. C'est un peu exceptionnel, mais c'est parce que j'ai eu l'occasion ce lundi, et je ne pouvais évidemment en aucun cas manquer ça, de m'entretenir avec Sam Sumik, l'un des coachs les plus charismatiques du circuit WTA. Il est venu en Belgique de Los Angeles pour apporter son expérience et travailler une semaine aux côtés des boursiers de la fondation belge Hope & Spirit. Le président français de la fondation, Xavier Le Gall, est également avec nous dans ce podcast. Et quelle expertise il va apporter à ces jeunes, Sam Sumik, ancien entraîneur de Victoria Azarenka et de Garbiñe Muguruza, avec qui il a remporté chaque fois deux grands chelems et qu'il a mené au rang de numéro 1 mondial. Il a accompagné plus de 10 joueuses en plus de 30 ans de carrière. Son franc-parler et son humilité ont fait de lui l'un des coachs français et les plus respectés sur le circuit. Merci d'avoir choisi d'écouter ce podcast que je produis chaque semaine avec beaucoup de passion et avec le plus grand soin. Mon nom est Christelle Joiris. Vous pouvez retrouver tous les numéros de ce podcast sur toutes les plateformes. On peut aussi se retrouver sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions, des remarques. Je vous laisse en compagnie de Sam Sumik et de Xavier Le Gall. Passez un excellent moment en notre compagnie.
Silence, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts.
C'est un grand jour aujourd'hui pour Je sais tes podcasts, car j'ai l'honneur d'accueillir à mon micro Monsieur Sam Sumik. Il m'a déjà fait l'immense honneur d'être l'invité de mon podcast l'an dernier. C'était en février 2023. Nous avions fait une interview en compagnie de Philippe Dehaze, que vous connaissez bien. C'était par Zoom. Ici, j'ai la chance de vous avoir en chair et en os. Je vous rappelle que Sam Sumik est une sommité internationale dans le milieu du coaching tennis. Il a un CV long comme le bras. Il a coaché plus de 10 joueuses sur le circuit WTA et en a mené deux au rang de numéro 1 mondial, Victoria Azarenka et Garbiñe Muguruza. Il a aussi notamment entraîné Elena Likhovtseva, Vera Zvonareva, Eugénie Bouchard, Anastasia Pavlyuchenkova. Bref, en plus de 4 titres du Grand Chelem, de 2 places de numéro 1 mondial, vous comptez à votre palmarès 3 médailles olympiques, 9 titres et 5 finales en Masters 1000. Est-ce que le compte est bon ?
Bah, je sais pas, je vous fais confiance. Ouais.
En tout cas, merci Sam de prendre le temps de répondre à mes questions. Et aujourd'hui, ce n'est pas Phil qui est à mes côtés, mais j'ai quand même l'honneur d'avoir un deuxième invité, un entraîneur français lui aussi, qui a amené Sam jusqu'ici en Belgique et que vous avez déjà entendu aussi à plusieurs reprises dans mon podcast. Xavier Le Gall, président de la fondation Hope & Spirit, de Breton. À mon micro, ça ne devrait pas m'arriver très souvent. Salut Xavier.
Salut Christelle, j'espère que tu vas bien.
Super, hein, écoute, je suis un peu impressionnée d'être en face de vous deux là, mais ça va très bien. Alors j'ai l'habitude de tutoyer les interlocuteurs qui viennent dans mon podcast, hein, tu le sais Xavier, ça permet un peu de casser les codes par rapport à un média plus traditionnel, mais bon, je ne suis pas sûre d'y parvenir tout à fait Sam, parce que bon, c'est quand même une institution hein, que j'ai devant moi, mais une institution très humble. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à Roland-Garros il y a quelques mois et Philippe m'avait emmené dans le restaurant des joueurs pour me montrer un peu les coulisses de l'événement, et Sam était attablé avec sa joueuse à ce moment-là, c'était Harmony Tan, et puis voilà, il est venu gentiment me dire bonjour alors que je pense qu'on s'est vu 53 minutes par Zoom. Ça m'étonnait déjà qu'il me reconnaisse, mais voilà, c'est tout ce qui caractérise Sam Sumik, c'est l'humilité en dehors et sur le terrain, et donc ça me fait vraiment plaisir de à nouveau te recevoir dans ce podcast. Sam, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, et Xavier forcément, qu'est-ce que tu fais ici dans notre beau pays en Belgique ?
C'est très simple en fait, j'ai répondu à l'invitation de Xavier et de la fondation, donc ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Voilà, là c'était le bon timing, donc je suis ravi d'être là, je suis ravi de faire quelque chose pour Hope and Spirit. Et puis voilà, je suis là toute la semaine. Ça s'est passé un peu comme ça.
Bah oui, ça fait longtemps qu'on avait vraiment envie de travailler ensemble, de l'emmener ici et de lui montrer déjà ce qu'on fait en Belgique, de pouvoir faire profiter, alors on ne peut pas faire profiter à tout le monde, mais en tout cas à nos meilleurs joueurs de l'instant T, on va dire. C'est vraiment hyper intéressant pour nous et nous aussi, c'est un honneur de l'avoir.
Et donc le principe, c'est que les boursiers de Hope & Spirit vont pouvoir profiter de son expertise pendant toute la semaine, c'est ça ?
Oui, ouais, toute la semaine. Il y a deux groupes de 6 joueurs et joueuses de 16 à 25 ans. Voilà, les joueurs et joueuses qui jouent sur le circuit ITF junior et senior, on va dire. Et puis qui jouent à la WTA ou à l'ATP. Mon mari est malheureusement, alors heureusement pour elle, mais malheureusement pas là parce qu'elle est en Fed Cup. Mais sinon, elle faisait aussi partie intégrante de ce groupe-là.
Voilà, Marie-Benoît qui fait partie évidemment de l'association, de la fondation également Hope & Spirit. Sam, qu'est-ce qui te séduit dans cette fondation, dans ce projet ? Est-ce que ça existe par ailleurs, toi qui as bourlingué un peu dans le monde et qui connais forcément bien la France, les États-Unis où tu vis maintenant, est-ce que tu as déjà vu quelque chose de similaire ?
Non, pas sûr. Des initiatives privées, sûrement, mais pas à une échelle aussi importante. Donc, pas sûr. Et puis, la beauté du projet, c'est d'aider les gens, quoi. Donc, quand un groupe de personnes tente d'aider un autre groupe de personnes, je pense que c'est le genre de choses dont on a envie de faire, on a envie de participer.
Quand on est coach de haut niveau et qu'ici on se retrouve avec des gens moins bien classés qui débutent ou qui vont peut-être être un jour plus haut classés, mais ça a une différence dans la manière de coacher, d'aborder les choses ?
Alors c'est possible, je ne suis pas sûr, parce que je pense que le haut niveau en fait est partout. Donc c'est juste que la barre n'est pas à la même hauteur pour tout le monde. Mais si demain, je ne sais pas, vous êtes l'une des meilleures juniors du pays, c'est déjà du très haut niveau. Parce que le but de chacun, c'est de devenir meilleur. Mmh. Et ça, c'est l'essence du très haut niveau. C'est toujours d'être meilleur, meilleur, meilleur. La meilleure version de soi-même. Alors peu importe le point de départ. Et puis les meilleurs au monde ont bien démarré très bas un jour. Mm-hmm. Non. Donc voilà, pour moi le très haut niveau, c'est un état d'esprit en fait. Mm. Et puis, performance, tout ce que vous voulez, c'est un état d'esprit.
Ouais. Et puis tu ne les connais pas du tout les gens que tu viens...
Non, exactement. Encore une fois, je pense que c'est un état d'esprit, ce n'est pas un classement. Quoi.
Combien de temps est-ce que c'est prévu que Sam les accompagne sur le terrain ?
Voilà, on fait donc pendant une semaine déjà, donc une semaine complète de 7 jours. C'est important aussi pour nous de proposer à ces joueurs-là une semaine de 7 jours parce que très souvent, quand ils ont perdu en tournoi, quand ils vont jusqu'au bout, bah, c'est 7 jours. Donc il faut tenir la distance sur 7 jours, sur des tournois normaux, on va dire, non pas des grands chelems. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais eu la chance de discuter avec un préparateur physique. Il nous disait à chaque fois, bah, vous finissez si ton joueur ou ta joueuse est éliminé le mardi ou le mercredi, c'est important de la faire continuer à travailler toute la semaine. Donc ça avait du sens de faire toute une semaine entière. Et donc les deux groupes s'entraînent 1h30 le matin et 1h30 le soir, l'après-midi.
Est-ce que les jeunes se rendent compte de à qui ils ont affaire ? Est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont ?
Je pense qu'ils s'en rendent compte parce qu'on n'a pas arrêté de les formater, voilà, de les formater là-dedans. Alors, j'ai pas eu tous avant, mais je sais que par exemple Simon ou Romain, je les ai eus la semaine dernière avec moi à Monastir ou à la maison et ils stressaient un petit peu. Voilà, ils savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés.
Simon Boupin et Romain Faucon, hein, deux boursiers de Hope & Spirit.
On sait que, voilà, en écoutant, parce qu'ils écoutent aussi les podcasts de Sam ou quoi, c'est pas un secret de dire que voilà, il a beaucoup sur tout ce qui est exigence, rigueur, haute performance au niveau et ils espéraient être à la hauteur.
Oui, et puis moi je viens de passer une heure là sur le terrain à regarder un petit peu comment vous travaillez tous les deux et moi c'est vrai que on connaît un petit peu le franc-parler de ça, mais c'est vrai que quand il a quelque chose à dire, il le dit et ça fait partie de ta personnalité aussi.
C'est une qualité, non ?
Ah bah, oui, bien sûr.
Okay.
Faut savoir la recevoir.
C'est pas mon problème.
En tant que joueur.
Ça, là, c'est plus, ça m'appartient plus là. Non, mais on peut dire les choses franchement et honnêtement, sans, je sais pas, dans un bon esprit, quoi, avec respect. Puis c'est ça aussi le rôle du coach. C'est ça aussi, je sais pas, tout éducateur ou je sais pas, prof à l'école ou etc. C'est comme ça, quoi. On est, on va dire un peu les experts en tennis. On est là pour essayer de faire améliorer les choses. Mmh. Et puis, il y a des fois, il y a des compliments et des fois, il y a des choses qui sont... Ben non, il y a des choses à améliorer, donc il faut les dire. Il n'y a pas de langue de bois, quoi.
Tu es déjà tombé sur des joueuses qui n'acceptaient pas forcément la manière dont tu leur disait les choses ?
Bah, c'est possible, mais elles ne me l'ont jamais dit.
D'accord.
C'est plutôt... en général, j'entends des sons de cloche, surtout venant de gens qui ne font pas partie de l'équipe ou qui ne me connaissent pas.
Ah oui. Une fois qu'on te connaît, qu'on t'a cerné, ça passe crème.
J'en sais rien. j'en sais rien, mais en général... mais c'est bien connu, c'est une règle pour tout le monde. C'est que les gens vous jugent sans vous connaître.
Dans mon précédent podcast de l'année passée, hein, ouais. Tu avais parlé de ton admiration pour les joueuses belges qui avaient fait les beaux jours du tennis mondial, ah bah ouais. Avec Justine et Kim.
Ouais.
C'est une autre ère maintenant. C'était exceptionnel d'avoir deux bonnes joueuses qui se disputent la place de numéro 1. On en a encore une maintenant dans le top 30, hein, Elise Mertens, et trois dans le top 100. Est-ce que tu sais les citer par hasard, les deux autres? Est-ce que tu connais?
Il y a celle que Philippe entraîne, mais que j'arrive jamais à prononcer son nom de famille.
C'est normal, c'est du flamand.
Kreitminen.
Est-ce qu'il y a Janina Wickmayer?
Ouais.
Ok. Et il y en a combien? Une
autre? Non, mais c'est les deux, c'est bien.
C'est bon?
Ok. Tu les connais un petit peu?
Ouais, un peu. Janina plus que Grete.
Ok. Grete? Grete.
Ouais. Alors Grete, je la croise de temps en temps sur les tournois. Et puis voilà, bonjour, ça va, etc. Bon, le fait qu'elle soit aussi un peu avec Philippe et tout ça, ça favorise aussi un peu plus le contact. Et puis elle connaît bien Janina aussi, donc je connais plus Janina.
Pourquoi tu la connais mieux, Janina?
Bah déjà, elle est sur le circuit depuis longtemps.
Oui, ça c'est sûr.
Ok, ouais. Donc avant ses blessures et le fait qu'elle devienne maman, etc., je la connaissais sans la connaître, comme la plupart du temps, tous les gens sur le circuit. On se dit bonjour, mais voilà, il n'y avait pas de... ça s'arrêtait là. Et puis là, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, je l'ai accompagnée sur deux tournois. Donc ça m'a permis de la connaître un peu plus.
Aux États-Unis, ça?
Ouais, elle était de ce côté-là du globe, donc moi j'y habite, et voilà. Elle s'est retrouvée sans entraîneur, et puis on a décidé de faire deux tournois ensemble, et puis ça m'a permis de passer un peu plus de temps et de la connaître, quoi. C'était vachement bien, c'était agréable.
D'accord, et ça va se poursuivre cette collaboration?
Ah ou... non, c'est pas prévu.
Ok.
C'était prévu de faire deux tournois et.
Et c'était une bonne expérience pour toi?
Ah bah ouais, bien sûr. Ah non, bien sûr, j'ai beaucoup aimé, ouais.
Ok.
Ouais.
Alors, on a une joueuse de Hope and Spirit, qui est Isaline Bonaventure, qui s'est arrêtée pendant quelques mois l'année passée. Après, elle a eu un problème physique, donc elle s'est fait opérer, elle est en train de se reconstruire, mais elle a fait un burn-out l'an dernier. On a vu également une des joueuses que tu as coachée, Garbine Muguruza, qui est à l'arrêt depuis fin 2023 aussi pour épuisement moral. Naomi Osaka est un autre exemple. Qu'est-ce qui fait, selon toi, aujourd'hui, que des joueuses tombe dans la détresse à ce point-là sur le circuit?
Oh, je ne sais pas si c'est une détresse. C'est quand même un mot un peu fort. Maintenant, chaque cas doit être différent, à mon avis, et bien particulier. C'est quand même vachement exigeant ce qu'elles font, le métier qu'elles font. C'est peut-être dû à ça. Parfois, on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ça peut être décourageant. Parfois, on a d'autres envies aussi. On a envie de passer un petit peu à autre chose ou au moins faire un break. C'est peut-être pas définitif ou ça l'est, j'en sais rien. En fait, je pense que si elles prennent un peu de recul, elles savent pas trop combien de temps ça va durer et puis si c'est permanent ou pas, etc. Donc, je pense qu'elles sont un peu là-dedans, quoi. Mais faudrait leur poser la question à elles parce que c'est... Je pense que c'est tellement personnel que...
Est-ce que tu penses que c'est de plus en plus exigeant parce qu'on ne voyait pas ou alors on ne le disait pas peut-être il y a 20 ans d'ici?
Mais non, c'est un métier merveilleux, il faut arrêter, quoi. Tu vois, il y a tous les... je ne sais pas qu'on me cite un métier qui n'est pas exigeant. Lequel? Si on veut bien faire les choses.
Bien sûr.
Qu'on soit à la poste ou qu'on soit athlète de haut niveau, c'est exigeant, non? Qu'on travaille pour une boîte, un patron, un restaurant, tout ce que vous voulez, c'est vachement exigeant, non? Donc celui-là, c'est un métier merveilleux, point à la ligne. Vaut mieux être athlète de haut niveau qu'à la poste, non?
Toi, ton avis sur la question, Xavier ?
J'ai un petit peu le même avis. La chose, c'est que, comme disait Sam, c'est personnel. Je pense que Isaline n'a pas fait un burn-out pour la même raison que Osaka ou que pour une autre. Déjà, je pense qu'elles osent plus le dire parce qu'il y en a une qui l'a dit et c'est Osaka. Maintenant, je suis du même avis que Sam. Ils ont quand même la chance à un moment donné de voyager, de vivre des émotions incroyables. Alors, dans les deux sens, mais je trouve que c'est quand même aussi important de vivre des émotions des fois un petit peu down pour aussi pouvoir recevoir correctement et vivre correctement les émotions vraiment fortes. Il faut se rendre compte aussi de ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part de méconnaissance de ce qu'elles font, dans le sens où je m'explique, on va me dire tout le temps, oui, mais on voyage, c'est difficile, les jet lag, les ceci, les cela. Oui, mais aussi essaye d'apprécier un petit peu, de t'ouvrir un petit peu au monde, d'aller visiter la ville où tu es, de t'ouvrir aux gens. Et ça, c'est pas fait. Et donc, à un moment donné, ça explose aussi.
Est-ce qu'on a vraiment l'occasion de faire ça quand on est en tournoi, qu'on doit s'entraîner, qu'on doit faire du physique, C'est ça que j'entends en tout cas souvent dans les interviews que je mène avec les joueuses.
C'est toujours pareil, si tu as vraiment envie. À un moment donné, tu ne fais pas non plus du physique, tes soins, ton entraînement H24. Tu peux quand même aller le soir, à un moment donné, faire un break. Je pense que ça fait partie au final de ta vie et de ta haute performance, de t'ouvrir aussi au monde, de ne pas être monocéphale et de savoir rien de parler d'autre que du tennis. Et c'est souvent le cas. Malheureusement, moi je sais que, en tout cas avec les athlètes, les joueurs, les joueuses avec qui je peux travailler, j'essaye vraiment de les sortir de cette sphère, mais eux n'ont pas vraiment envie en fait. C'est un confort qui dénonce.
Tu as du même avis ?
Moi je pense que ça a à inclure dans leur programme de préparation et leur style de vie. Donc pour moi c'est pas négociable en fait.
De faire autre chose que de s'entraîner,
ouais,
de penser
attention,
tennis.
Faire autre chose, ça ne veut pas dire que tout d'un coup on arrête le tennis, mais de prendre un petit peu de temps dans la journée pour ne serait-ce qu'une petite balade ou prendre un café dans le parc, c'est vachement bien. Ça ne veut pas dire faire le touriste. On n'a pas forcément le temps pour faire le touriste à temps complet. Okay, ça, évidemment, non, on n'a pas le temps. Mais s'accorder des petites plages dans la journée pour aller se faire une petite balade ou visiter juste un monument, bon voilà, ça prend une heure, ça prend une heure et demie. Ouais. Tu vois ? Donc ça, on a le temps de faire ça.
Et là, elles étaient plutôt d'accord, les joueuses que tu as coachées, d'être dans cette philosophie, cet état d'esprit-là ?
Alors je pense, ouais. Parmi les meilleures, ouais, je pense. Mais aussi, c'est aussi une génération qui est déjà un petit peu plus âgée par rapport à la nouvelle. Là, on a affaire à une nouvelle génération, encore.
Qui est différente ?
Ah bah ouais. Ouais. Bah tu me poses la question, mais tu connais la réponse.
Non, parce qu'à quel niveau ? Je veux dire, dans la mesure où, pour avoir l'esprit ouvert, pour pouvoir se poser un petit peu, je dirais
c'est plus facile. Si tu as une heure et demie devant toi, okay, tu peux faire plein de choses.
Ouais.
Ok ? Mais en général, à l'heure actuelle, on choisit plutôt la facilité, c'est de la passer devant le téléphone. Donc, si on pose
on est encore
un peu...
plus tenté aujourd'hui.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Si on pose un petit peu ce téléphone, c'est un choix perso, hein, et que on décide, tiens, je vais toute seule ou tout seul me faire une petite balade. Je vais enlever mes pompes, je vais marcher pieds nus dans le parc là, sur le gazon, tout ça, tout va bien. Je vais sur la plage. Ben ouais, parce que je pense que moi, c'est important. Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Mais moi, je pense que tous ces moments-là sont importants. Oui. Même 10 minutes, c'est important. Mais ça fait partie du truc. Peut-être s'arrêter une demi-heure à écouter un groupe qui joue dans la rue. J'en sais rien, moi. Mmh. Juste avoir une conversation à peu près normale au café du coin. Mmh. Sortir un peu, etc. On a le temps de faire tout ça. Faut arrêter de délirer aussi, quoi. On a le temps de faire tout ça. OK ? Donc, mais... À l'heure actuelle, en 2024, le choix est vite réglé. C'est plutôt le téléphone qui devient le premier choix. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ces cas-là, on ne peut plus se plaindre après.
Oui.
Quand on ne fait pas les choses correctement, on n'a pas le droit de se plaindre.
Et ça fait quelques temps que tu n'es plus sur le circuit, en tout cas à encadrer une joueuse.
Ça fait quelques mois, ouais.
Okay.
Ouais.
Et ça te convient ou tu as envie d'y retourner ? Ça te manque ?
Bon, faut jamais dire jamais, je pense que être sur le court de tennis, c'est happy place. au même titre que l'océan, que tout ça, pour moi. Donc je suis ravi de passer du temps sur le court. Un peu de temps, beaucoup de temps, ça m'est égal. Donc entraîner m'intéresse, entraîner le très haut niveau m'intéresse toujours. Pour l'instant, je ne le fais pas, mais il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que je reprendrai mes sacs et je repartirai. Peut-être qu'un joli projet va se présenter à moi, je n'en sais rien, je n'ai pas de plan.
Si une ancienne joueuse te rappelait, par exemple, ce serait une option de dire oui? Une ancienne joueuse que tu as coachée?
Bah, j'écouterais, ouais. Ouais, je dis jamais non, il n'y a pas de... J'ai pas de... Je sais pas... Ouais, j'écouterais, ouais. Ouais. Il y en a quelques-unes que j'ai pas réussi à faire progresser, donc je pense pas qu'elles m'appellent. Mais...
Qui ça?
Bah, j'ai pas réussi vraiment avec Bouchard, par exemple. J'ai pas trouvé vraiment la solution, même si on a essayé de bien bosser, même si ça s'est bien passé et tout. Et à l'évidence, ça fonctionnait pas. En voilà une, déjà.
Mais c'est toi qui as fait le constat ou c'est elle qui l'a...
Alors, c'est sûrement un petit peu les deux. Mais je pense que j'avais déjà compris bien plus vite qu'elle, en fait, que ça allait être compliqué.
Et quoi, elle vous laisse persuader que c'était possible
de... Non, c'est pas qu'elle vous laisse persuader, c'est que quand déjà on a commencé à parler un peu dans l'équipe de tout ça, elle a été super, elle a dit non, je souhaite continuer et voilà, il faut traverser la tempête ensemble. Mais quand, si ça dure trop longtemps, c'est normal que les choses changent. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est absolument, c'est d'une logique... Voilà, impeccable.
Ça me permet de faire la transition sur la séparation étonnante entre Novak Djokovic et Goran Ivanišević.
C'est normal.
Oui, ça faisait 5 ans.
Mais on ne se rend pas compte l'implication, les émotions, on ne se rend pas compte l'exigence. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, quoi. C'est rien contre le joueur ou le coach ou quoi que ce soit. Quand il y a plus d'énergie et qu'on peut plus avancer et qu'on peut plus rien donner, c'est absolument normal. Quand l'érosion est présente, ça se fait petit à petit. Ça a pris 5 ans, terminé. Et puis dans ces cas-là, chacun fait sa route et puis il faut se rappeler que des bons moments, parce qu'il y en a eu un paquet quand même.
Oui, certainement, mais c'est parce que tu disais aussi dans un précédent podcast que ce sont les projets à long terme qui te faisaient rêver,
ouais.
Mener quelqu'un très haut et très longtemps, surtout, ouais. Pour aller dans le moindre détail, pour arriver...
Ben à... Oui, parce que il faut du temps pour construire. Et à l'heure actuelle, on nous donne de moins en moins de temps.
Et 5 ans, c'est pas tellement, finalement.
C'est vachement long.
Oui.
C'est long, oui. C'est vachement long et au très très haut niveau avec l'implication que ça demande, l'exigence, le niveau de concentration aussi que ça demande même de la part du coach, ça rigole pas. Ouais. Même si Goran est très exigeant, Novak aussi, ça doit pas être facile tous les jours, mais facile pour aller gagner, pour se préparer, pour dans la construction, pas ça s'arrête là. C'est pas le tour n'est pas que glamour. Hein. Faut arrêter avec ça. Hein. Donc, forcément, à un moment donné, on n'a plus rien à se dire, quoi. Mais on va rester amis, donc c'est mieux que, voilà, on passe à autre chose. Parce que c'est quand même mieux si on se sépare en bons termes, quoi.
Oui. Et 5 ans, c'est aussi le nombre d'années que tu es resté aux côtés de Victoria Azarenka, de 2010 à 2015.
Ouais.
J'avais envie de te poser une petite question par rapport à elle, un petit peu en lien avec l'actualité. Elle est en grande forme depuis le début de la saison, demi-finaliste à Brisbane, en deuxième semaine de l'Open d'Australie, quart de finaliste à Doha, demi-finaliste à Miami, encore ici quart de finaliste à Charleston. Elle est aujourd'hui à 34 ans, 25e mondiale. Est-ce qu'elle peut, à ton avis, aller encore plus haut?
Ah ouais?
C'est la question.
Ah ouais, je suis même étonné, moi, qu'elle ne soit pas dans le top 10.
Ah oui?
Ouais. Mais c'est parce que je pense que du bien de la joueuse, quoi. Donc ouais. Je suis pas étonné du classement, de ses résultats, de son niveau de jeu, de ça. Je suis étonné qu'elle ne soit pas dans le top 10, moi. Mais attention, c'est pas une critique, c'est un compliment. Hein.
Oui, bien sûr.
Faut pas le prendre du mauvais côté, hein. parce que je pense que voilà, elle devrait y être et il y a tout ce qu'il faut et voilà quoi.
Et qu'est-ce qui manque alors?
Ah bah, j'en sais rien, moi je suis pas dans l'équipe. Je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quels sont les petits je sais pas quel est le plan, la vision sur les deux prochaines années, je sais pas, je sais rien de tout ça. Puis elle est devenue maman aussi, c'est quand même plus le même emploi du temps pour elle. Donc il y a peut-être tout ça un peu, c'est pas évident quoi.
Mais là au bout de 5 années, c'était un peu comme Novak et Goran, c'était vous aviez fait le tour de la question tous les deux?
Bah moi oui.
OK.
Puisque c'est moi qui ai arrêté.
Ah oui.
Donc moi oui, donc c'est pour ça que je trouve ça tout à fait normal entre Novak et parce que ça m'est arrivé, ouais.
Il y a quand même des gens qui restent plus longtemps.
Bah ouais, mais bravo à eux.
10 ans parfois.
Bah, bravo. Ouais.
Quel est ton avis sur la question, toi, Xa?
Bah, c'est pareil. Déjà, c'est rare. Et puis, on en avait déjà parlé la dernière fois dans un précédent podcast, tous les deux, où on disait, à un moment donné, t'as des 5 ans, c'est quasiment 2 cycles, quoi. Voire 3 cycles.
Presque, ouais.
Presque, ouais, où tu dois te renouveler, tu dois remettre des choses en place. Je sais que, par exemple, à titre personnel, Marie, ça va faire 3 ans. Tu peux pas faire la même chose, tu peux pas apporter la même chose, tu peux pas avoir le même discours tout le temps, parce que sinon, bah ouais, on n'a plus rien à se dire.
De toute façon, c'est très simple. Sur les projets, si on veut être très fort ou devenir très fort, okay, on ne peut rien construire en 3 mois. Et à l'heure actuelle, c'est le temps qu'on nous donne.
Et encore, t'es gentil.
Donc, il se passera rien, à part être viré. Donc, si on regarde toutes celles qui jouent bien à l'heure actuelle ou dans le passé, il y a une stabilité. Il y a du temps. Alors, pas forcément 5 ans ou 10 ans, mais il y a au moins 3 ans.
Tu penses à qui, par exemple?
Là, à l'heure actuelle,
oui.
Bah, Siatec, elle a changé qu'un membre depuis quelques années. Son coach, Sabalenka.
Rybakina,
je te prends juste les 3 meilleurs, c'est les mêmes. Jaber, c'est le même groupe. Je peux me gourer, bien sûr. Si je commets une erreur,
Vondrousova, c'est pareil.
Il y en a forcément d'autres. Mais là, dans le top 10, en voilà déjà 4. Pegula a bien joué, mais elle a duré longtemps avec David. Witt, ok. Ça vient juste d'arrêter, mais ça a été très long. Sakkari a quand même tenu longtemps avec Tom Hill.
Avec Tom Hill, ouais, ça fait 3 ou 4 ans.
Ça vient de s'arrêter, parce que, mais ça dure plus que 3 mois, quoi, plus qu'un an.
Pourtant, Maria Sakkari, elle avait dit qu'elle voulait aller jusqu'au bout de sa carrière avec le même coach, Tom Hill.
Ah, mais c'est magnifique quand t'es un coach et que t'entends ça. Après, la réalité des choses fait que, peut-être, mais c'est pas grave. Ils ont fait un sacré bout de chemin. C'est une sacrée expérience, une sacrée aventure ensemble. Et maintenant, il n'y a plus d'aventure ensemble.
Bah, ça rejoint aussi un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, où on supporte de moins en moins vite, de plus en plus vite. Au bout de 2 ans, moi je vois qu'avec Geoffrey, au bout de 2 ans, bon, t'as fait le tour de la question, mais bon, tu peux te renouveler, mais à un moment donné, tu fatigues le joueur avec tes demandes ou quoi, et donc bah, ça craque un petit peu. Mais aussi, ça rejoint à ce qu'on disait sur la nouvelle génération, où ils se lassent très vite. Donc c'est vraiment très compliqué de construire et les cycles, bah, ils sont de moins en moins longs.
Non, c'est évident, ça se voit, c'est tout, c'est pas compliqué. Et chez les mecs, on peut prendre aussi tous les exemples. Il y a la stabilité, il y a la durée, il y a le même groupe. Alors évidemment, quand je dis le même groupe, il peut y avoir soit l'apport d'une personne supplémentaire qui intègre, soit une personne échangée. Et il n'y a pas tout le groupe qui est lourdé d'un coup, quoi. C'est vachement important. Ça, c'est important, mais il y a aussi une confiance à créer, à construire.
Oui,
comment on construit une confiance en 3 semaines, en 3 mois? Parce que c'est bien beau, mais il faut traverser les bons et les mauvais moments. Il y a des expériences dans le groupe qui font que, tiens, ok, je te fais confiance ou pas. Mais on ne peut pas battre le temps dans ces cas-là. Je ne veux pas dire, tiens, on bosse ensemble et je te fais confiance tout de suite. Ce n'est pas vrai, ça.
Non,
ça se construit
sûr.
Comme le reste, comme le jeu, comme le physique, comme l'athlète, quoi.
Ouais.
Comme le projet. C'est aussi simple que ça. C'est juste du bon sens. Donc maintenant, j'ai dit 3 mois pour exprimer le peu de temps que l'entraîneur dispose. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend des cas, mais moi, je ne sais pas faire, quoi. Déjà, je préviens tout de suite, je ne sais pas comment je peux faire gagner un grand chelem à quelqu'un en 3 mois. Déjà, tout le monde ne peut pas en gagner. si vous avez quelqu'un, vous sentez que il y a de belles choses qui peuvent se passer, mais ça prend du temps, ça prend du, c'est du boulot. Il y aura beaucoup de déceptions, il y aura beaucoup de, des bons moments, il y aura beaucoup de, il va se passer plein de choses en fait, quoi. Ouais. Et moi, je sais pas faire en 3 mois. Il y a peut-être des coachs qui savent. Bravo, youpi, allez-y, montrez-moi parce que je vais apprendre quelque chose. Moi, je sais pas.
Mais tu voilà, encore une fois, alors on va dire on est des vieux cons au final, mais on parle de la nouvelle génération.
Ouais, mais on est content d'être des vieux cons. Mais la nouvelle, plutôt que des jeunes cons.
La nouvelle génération, c'est très compliqué aussi d'arriver à les convaincre d'investir dans leur projet. Alors quand je parle investir, c'est pas forcément financier, mais ça l'est quand même. Et tu te rends compte que c'est compliqué de les emmener là-dedans. Tu vois, alors ils veulent être top 100, puis après ils veulent être top 10, puis après ils veulent gagner un grand chelem, mais qu'est-ce que tu mets en face de ça, tu vois, et ça c'est très compliqué. Sam parle d'équipe depuis tout à l'heure, mais ils ont du mal à construire une équipe parce que ça les intéresse pas en fait, aussi ils ont du mal à s'investir eux-mêmes personnellement, donc comment veux-tu qu'ils s'investissent dans un team, qu'ils s'investissent dans une relation, qu'ils s'investissent dans une routine de travail. Maintenant tout doit être rapide, tout doit être fun, tout doit être non exigeant. Donc ça doit être
facile maintenant.
Voilà, tout doit être facile. Moi, mon coach, il m'a demandé quelque chose. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Comment veux-tu qu'il soit cohérent sur le terrain s'il n'est déjà pas cohérent dans sa vie de tous les jours ?
Mais attention, moi, je ne crache pas dans la soupe. Hein. C'est juste, c'est des faits, quoi. C'est un état des lieux, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Mm. Pourvu que ça tourne, quoi. Mais pourvu que ça tourne vite, quoi. Parce que là, on s'emmerde un peu quand même, quoi.
Il y a une joueuse dont j'avais envie de te parler parce que tous les deux parce qu'elle est française, c'est Caroline Garcia qui elle a rappelé son ancien coach qui était à mon micro d'ailleurs au mois de janvier, Bertrand Perret. Un petit avis sur son jeu, sur ses capacités à revenir dans le top 10 mondial. Est-ce que c'était un coup d'éclat ou est-ce que elle a réellement le potentiel pour y rester? Qu'est-ce qu'il manque pour qu'elle y arrive?
Attention parce que ça, la jambe Caroline, c'est la femme de Sam. Hein.
Voilà,
alors tu peux pas dire de bêtises, Sam.
Ce sera ma prochaine invitée alors, Sam. On va négocier ça, Caroline.
Ou ta femme.
Ah, Caroline. Ce sera intéressant,
ouais,
ça aussi.
Il faut lui demander. Ouais. Non, moi j'ai rien à voir là-dedans. Garcia, c'est un secret pour personne. Elle présente, elle montre toutes les qualités nécessaires pour aller au bout et aller chercher les grands trophées. Pour X raisons, ça ne se passe pas pour l'instant. Elle a encore un peu de temps.
Elle a quand même été chercher un Masters.
Ouais, c'est bien, ouais. Non, c'est bien. Non, c'est déjà un très beau titre.
Quand même.
Mais quand on rêve, quand on est petit ou quand on commence à débuter sur le circuit ou quoi que ce soit, c'est pas le Masters qui nous fait rêver. Donc c'est magnifique. Tout titre est tellement difficile à gagner que je pense que toute victoire en tournoi est magnifique. Mais il faut avouer quand même qu'un Wimbledon, c'est pas pareil qu'un Masters.
Bien sûr.
Un Masters, c'est pas pareil qu'un WTA 250, on est d'accord.
Ouais.
Un WTA 250, c'est pas pareil que, je sais pas moi, un tournoi au club de Quiberon. Ok, non, mais on est d'accord. Ok, donc, ouais. donc voilà quoi. C'est très bien, c'est très beau. Ça devrait donner des ailes. Ça devrait permettre d'avoir une confiance amplifiée, décuplée, tout ce qu'on veut. Un master, c'est magnifique de gagner, mais ça te montre que tu peux faire mieux, que tu peux aller chercher plus.
Ou pas. Ou justement une telle pression, parce que je dois maintenant montrer mais que je suis capable.
C'est pas ça la pression. La pression, c'est pas ça. La pression, on sait plus ce que c'est. Tout le monde en parle, on sait plus ce que c'est. Donc c'est pas ça. C'est...
Comment on explique alors que c'est difficile pour elle d'aller chercher ce gros titre?
Alors ça, encore une fois, faudrait être dans l'équipe, faudrait être au quotidien. Mm-hmm. Il faudrait en savoir un peu plus sur la personne, la personnalité, le caractère, les choses comme ça, etc. Pour peut-être aller explorer, fouiller et essayer d'améliorer encore l'athlète qui est quand même déjà à un très très haut niveau. Quoi.
Ah bah oui.
Ça, faudrait être dedans.
Est-ce que tu penses que c'est donné à tout le monde mentalement de gagner un grand chelem?
Non, mais ça se travaille. on ne naît pas champion de Grand Chelem.
Il y en a qui coincent quand même. Je pense à la pauvre Hans.
Oui, mais parce que c'est vachement difficile. Mm-hmm. Mais Hans, elle a fait mieux qu'Caro déjà. OK. Trois, non?
Trois, oui. Deux Wimbledon, un US Open.
Ce qu'elle fait est magnifique. Mais ouais, mais ça montre aussi que c'est quand même très très dur.
Ah bah oui, ça l'a détruite
et
aussi.
Et rare. Ah ça, je sais pas. Je encore une fois, je peux pas parler de ce que je connais pas. Et là, faudrait être proche d'elle, proche de l'équipe, savoir ce qui se passe, etc., etc. J'espère qu'elle ira en chercher un, quoi. Mais ça montre aussi que les opportunités sont rares. C'est très difficile d'en avoir une. Alors deux ou trois, c'est quand même magnifique, quoi. Mais faut rien lâcher, quoi.
Xavier, tu voulais dire quelque chose par rapport à Caroline Garcia? Pour toi, elle a sa place dans le top 10?
Intrinsèquement.
Pour l'instant, le top 10, c'est la place de beaucoup de gens. Hein.
Voilà, donc intrinsèquement, oui, comme disait Sam, elle a toutes les qualités requises pour être dans le top 10.
Ça, en plus, ça fait. Quand on a fait la chose une fois, on peut le refaire. Ouais. En général, on dit ça, non?
Elle a été top 5 en plus. Elle a été 3e ou 4e. Donc oui, elle a toutes les qualités pour. Après, ça se met pas. C'est très difficile d'une année à l'autre en plus. Hein, donc. Ça, c'est il y a quand même une stabilité à trouver qu'elle ne trouve pas apparemment. En tout cas, ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est qu'elle le dit elle-même qu'elle a du mal à trouver cette stabilité soi-disant émotionnelle pour arriver à être top 10. Donc voilà. Et quand t'as pas de stabilité avec cette règle, tu perds tes points tous les ans. Bah, c'est très compliqué.
Tu comprends ça de ne pas pouvoir garder une stabilité émotionnelle?
Voilà. C'est une bonne question, ça. Je le comprends, oui et non, parce que c'est pas facile, comme disait Sam. C'est challengé tous les jours, parce que c'est de la haute compétition. Et à côté de ça, elles s'en plaignent qu'elles ont du mal, mais il faut aussi, à un moment donné, aller chercher au profond de soi-même aussi. Tu vois, et ça, c'est une qualité qu'on retrouve de moins en moins. Ouais, je veux être top 100, je veux être top 10, ouais, je veux être top 5. Ah ouais, mais c'est difficile. Ah ouais, mais donc, ça veut dire que c'est des incantations, en fait, ce que tu nous dis, tu vois, et il faut aller chercher au fond, au plus profond de soi-même, et c'est jamais facile. Alors on peut se faire aider aussi par des coachs, mais il faut le vouloir aussi. Sam ?
Émotionnellement, ça peut être compliqué d'aller chercher au plus profond de soi-même. Parfois des choses, ça peut parfois faire mal mentalement, psychologiquement, d'aller puiser là-dedans.
On n'a pas le choix. Donc que ça fasse du bien ou que ça fasse mal, c'est pas le problème, on s'en fout à la limite, c'est que la réalité, c'est qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, on parle de ceux qui ont ce drive, hein, ce désir profond, important, exigeant, cette discipline, cette envie de vouloir vraiment y arriver. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de raccourci, quoi. Il faut y aller droit dedans.
Je vois le temps qui passe et je sais que je ne peux pas trop abuser de votre bonté à tous les deux, mais j'ai quand même envie de te poser une question, Sam, même si j'en ai 10 000. Coacher un homme, ça pourrait te plaire ?
Ah ouais, bien sûr.
T'as jamais eu de proposition ou...
Oui, j'en ai eu.
Et c'était pas le bon moment ?
Alors voilà, exactement, parce que les propositions que j'avais eues, j'étais pas libre. Et à chaque fois que j'ai été disponible, parce que la fin d'une association, etc., j'ai pas été sollicité par les hommes, j'ai été à ce moment-là sollicité par d'autres femmes, d'autres joueuses. Mmh. Donc c'est juste, voilà, pourquoi.
D'accord. Et donc, tu suis autant le circuit masculin que féminin ?
Ouais. Ouais, puis surtout, ces 20 dernières années, on a été tellement privilégiés que comment ne pas suivre le tennis masculin, quoi. Même si on n'y est pas, comment on ne peut pas le suivre, quoi.
Ouais. Justement, maintenant, en plus, c'est fascinant, quoi. C'est avec ce qui se passe, avec le passage de relais.
Alors, pour moi, non. Parce que je pense qu'il faut, mais c'est personnel, il faut que je digère un peu cette période de 20 ou à peu près dernières années où on a eu au moins... 5 joueurs exceptionnels, quoi, tu vois.
Oui.
Donc il faut que je digère ça déjà, parce que je pense que le débat du goat et tout ça, on s'en fout. Mais la période, c'est la période qu'on a vécue, la période tennistique masculine, okay, qui était, c'est la période qui est le goat.
Et ça veut dire que tu ne penses pas qu'elle puisse justement maintenant redémarrer avec,
bah moi, je pense pas à Alcaraz et Sinner. Si, c'est bien, mais pour l'instant, ils ne sont que deux. Quoi. J'espère que Djoko va... Djoko, Rafa et d'autres vont... D'autres jeunes vont arriver et que les deux pépés, là, ils tiennent encore longtemps.
Ouais.
J'espère ça. Et voilà, parce que j'aimerais bien voir ça.
Rafa, ça devient inquiétant quand même.
Bah, je sais pas, il joue tous les jours. Et tant qu'il est sur un court, il y a de l'espoir, non? Bah, il faut jamais enterrer les très très grands champions.
Ah bah non, ça c'est sûr. Surtout pas eux.
Donc, je sais pas, il court, il tape la boule.
Et à l'aube de la saison sur terre battue, là, tu penses que Sinner va réussir à passer au-dessus? On sait que la place de numéro 1 mondial est, selon toi, celui qui a le plus de chances de passer devant, c'est plutôt Alcaraz qui a plus le profil d'un joueur de terre ou bien Sinner? Quel est ton avis sur ce débat-là?
Ça va, je pense que la surface va jouer un rôle.
Mm-hmm.
Peut-être, mais c'est pas la surface en fait, c'est pas forcément la terre. Ça va être le temps qui va jouer un rôle. Parce que si la terre est trempée, mouillée, un peu boueuse, ce que vous voulez, quoi, c'est pas pareil que si elle est sèche, glissante. Je pense que c'est le temps qui va, le climat qui va jouer un rôle.
Ah oui, s'il fait sec, ce sera plus propice au jeu d'Alcaraz.
Pas sûr. Plus c'est rapide, ouais, plus c'est mieux pour Sinner.
Ouais, hein. Moi je dirais que c'est Sinner, surtout qu'il va bénéficier de la vitesse. Ouais. Sa balle va vite. Alcaraz est capable sur des conditions un peu plus lourdes de mettre un peu plus de puissance, je pense.
Parce que une terre battue avec un sol bien dur par la sécheresse, enfin la sécheresse, c'est un bien grand mot, mais une surface bien sèche, bien lisse, tout d'un coup, ça devient peut-être un des cours les plus rapides sur lesquels on joue de l'année. Hein. La terre battue bien sèche, c'est un des cours les plus rapides sur lesquels on joue. Hein.
Et puis la lourdeur de la terre pourrait niveler un peu le service. Tout le monde vante la progression du service de Sinner aussi. Alcaraz fait moins de points gratuits. Donc moi, et on se retrouverait sur Nadal un peu plus, entre guillemets.
Ah, moi, je regarderais la météo, quoi. pour avoir peut-être une idée.
Mais Rafa il aimait bien dès que c'était fort sec, rapide. Donc c'est...
Le giclet, son lift prenait beaucoup plus.
Qu'Alcaraz,
oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Rafa est tout aussi puissant, mais il met quand même beaucoup plus de spin avec son coup droit qu'Alcaraz.
Okay.
Donc la terre, ça gicle, surtout à Roland-Garros. Mmh. Parce que encore ça, c'est différent, parce que les gens parlent de terre battue, mais t'es aussi bien, mieux placé que moi pour savoir que les terrains ne sont pas les mêmes à Roland-Garros.
Ouais.
Quand c'est sec, ça gicle, ça va vite. Ça va beaucoup plus vite qu'à Rome où les terrains sont enterrés. C'est pas la même période de l'année non plus. On a gagné 3 semaines ou 4 semaines par rapport à ça. Et donc c'est totalement différent, totalement différent. Ou alors Madrid par exemple. Rafa n'a pas gagné beaucoup à Madrid.
C'est l'altitude.
C'est le seul tournoi où il a gagné un peu moins sur terre, oui, parce que c'est en altitude. Donc c'est différent. Et Roland c'est réputé pour être une terre quand même beaucoup plus rapide. Et de moins bonne qualité
depuis quelques années. S'il y a le soleil, ouais.
S'il y a le soleil, ouais, c'est des terrains qui sont très rapides.
Ok, donc c'est la météo qui déterminera qui va passer.
Je sais pas.
Merci Sam Sumik pour cette analyse.
Je serai joueur parmi les favoris, je regarderai la météo. J'appellerai tout de suite, tu vois.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. J'aimerais savoir à l'avance.
D'accord. Et tu seras, même si tu n'as pas de joueur, tu seras à Roland-Garros malgré
non.
tout ? Non, tu restes à Los Angeles ?
Ou ailleurs.
Ok. Bon, super. Mais c'était un vrai plaisir, Sam, de discuter avec toi. C'est toujours un vrai plaisir.
C'est moi. Et merci de m'inviter à nouveau.
Merci Xavier d'avoir organisé cet échange. Merci de m'avoir convié sur le court. Là, j'ai pu voir vos prouesses de coach l'un et l'autre. Et bien, je mettrai bien sûr des petites images sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez voir ça. Et puis, la prochaine fois, je propose qu'on fasse le podcast à Los Angeles.
Ouais,
je m'invite. Hein.
Ou ailleurs.
ou ailleurs. Il va venir vivre en Belgique. T'es tellement amoureux de la Belgique maintenant que tu y es.
Je suis ravi d'être de passage. Je suis content de venir.
D'accord.
Y a pas...
on verra ce que l'avenir nous réserve.
Ouais. Merci beaucoup pour votre temps à tous les deux et à très bientôt.
Merci.